Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et dans ce podcast, je pars en recherche des meilleurs conseils, des meilleures histoires et des meilleurs exemples pour t'aider à progresser dans ton activité et ta vie de freelance ou d'indépendant. Et dans cet épisode, on va se concentrer sur une notion très importante, la précision dans le ciblage et la compréhension de nos clients. Mon invité, Mathieu Ceccarelli, est consultant SEA, c'est-à-dire l'acquisition payante via les moteurs de recherche. Grosso modo, ce sont les liens sponsorisés que tu vois en haut de ta page Google quand tu fais une recherche. Mais Mathieu ne fait pas ça pour tout le monde, il ne travaille pas avec tous les clients du monde. Il a décidé d'adopter un ciblage très précis pour sa clientèle et de tout mettre en œuvre pour travailler avec ses clients idéaux. Et dans cet épisode, on parle donc de son approche pour augmenter sa légitimité auprès de ces personnes-là, comment mieux comprendre les processus décisionnels et les enjeux internes des entreprises de ses clients, de sa réflexion sur le problème précis et douloureux qu'il résout pour eux, et de plein d'autres notions importantes pour la construction de ton business sur ce sujet du ciblage. Un épisode qui comprend des clés très importantes, alors je t'invite à attraper un carnet, te préparer à prendre des notes et à faire attention à tout ce que Mathieu va te raconter. Et ensemble, on se retrouve à la fin de l'épisode pour le débrief. Et d'ici là, je te souhaite une très bonne écoute. Bienvenue sur Young, Wild and Freelance, Mathieu.
Salut Thomas, enchanté.
Content qu'on puisse discuter. Juste pour le petit contexte, j'aime bien donner un peu de contexte des premières fois où je discute avec mes invités au début d'épisode. On s'était appelé, je crois, c'était l'été dernier.
Exactement.
On s'était appelé, on avait passé un petit temps au téléphone.
Ouais, j'avais souhaité échanger avec toi pour, je crois que suite à un de tes contenus que j'avais vu sur LinkedIn. Et ça m'avait inspiré, en fait, parce que je pense que tu avais avancé une certaine maturation dans ton évolution. Et ça m'avait interpellé. Et puis après, on a reparlé en fin d'année dernière et tu m'avais également inspiré sur le recrutement.
Ben on va parler de toutes ces choses. Je crois que la première discussion qu'on avait eue, c'était un peu sur le positionnement et l'évolution de ça. Et c'est un des sujets dont je veux parler avec toi. Mais avant de nous lancer là-dedans, on va commencer par la première question rituelle pour ancrer un peu le décor. Mathieu, comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenu indépendant?
Alors, déjà pour mettre les choses dans leur contexte, j'ai 37 ans. Je suis indépendant depuis depuis deux, enfin depuis cinq. C'est ma cinquième année là, en tant qu'indépendant. Je pense que c'est une maturation quasiment, enfin de toute ma carrière professionnelle, pour mettre un petit peu les choses, enfin resituer. J'ai commencé ma carrière par 6 ans en finance, et du coup. Cette expérience-là a nourri en moi certaines compréhensions du ma enfin j'ai eu une certaine compréhension du marché professionnel, du monde professionnel, et à partir de cette expérience, j'ai voulu entre guillemets tout faire pour moi ce que j'appelle, enfin c'est ce qu'on appelle travailler mon employabilité, et de jamais être prisonnier entre guillemets d'une entreprise. Donc l'idée long terme, comme beaucoup de personnes, c'est la liberté. Mais pour avoir vécu la difficulté de ne pas être employable, de ne pas aller comme on veut sur différents postes, sachant que c'est quelque chose qui me démange, moi, de toucher un peu à tout. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'inscrit un peu dans l'ensemble de ma carrière professionnelle. Donc j'ai fait d'abord 6 ans en finance, et ensuite je me suis mis dans le digital. D'abord j'ai fait 2 ans dans une startup, 2 ans dans une autre startup, et voilà, après je me suis lancé en freelance, fort de tout ce que j'avais appris, mais avec l'idée vraiment, de toujours travailler l'employabilité, l'aspiration à la liberté, et une autre chose qui est vraiment fondamentale chez moi, c'est de toucher à plein de sujets. Je pense que j'avais toujours la frustration de faire. En fait, ça me convient pas de faire 5 jours par semaine sur le même sujet pour une même entreprise. Tu vois, l'entreprise que j'ai quittée avant d'être indépendant, c'était Sendinblue. Je faisais 5 jours par semaine sur des sujets. À partir du moment où je suis devenu indépendant, j'ai continué à travailler avec eux 1 jour par semaine. Depuis que j'ai arrêté, je travaille 1 jour par semaine. Et ben en fait, ça j'ai eu un rapport au travail qui a complètement changé. C'est les mêmes personnes, les mêmes sujets, mais le fait que ce soit pas ma seule chose dans la journée, ça change tout en fait. Ça change les rapports humains, ça change la motivation. Voilà. Et donc tu vois, par exemple, j'en avais un peu marre de faire 5 jours par semaine à la fin de mon CDI chez eux. Et à l'inverse, à partir du moment où j'étais indépendant, enfin, j'ai toujours été à fond motivé et intéressé par la mission, parce que c'était un truc un peu plus réduit, et que ça me permettait surtout par ailleurs, de faire d'autres choses.
C'est trop intéressant. Il y a plusieurs choses qui m'intriguent dans ce que tu as dit et que j'ai envie sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Mais le premier truc, c'est, tu vois, c'est contre-intuitif, je pense, pour beaucoup de boîtes qui se disent, ah, si la personne part en free, ben c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Mais ce que tu es en train de dire, c'est presque que t'apportes d'autant plus à ton ancien employeur, à Sendinblue, en tant que freelance quand tu bosses avec eux et que c'est tes clients. En termes de, comme tu disais, de motivation, tu as envie d'être là, tu as envie de, j'imagine, ta performance au travail augmente aussi. Et après, avec tout ce que tu apprends dans tes autres missions clients, tu le ramènes aussi chez eux. Du coup, c'est presque une bonne chose pour eux que tu sois parti en free et que tu reviennes par la suite, quoi.
Ouais, c'est très bénéfique. Alors, la réflexion là-dessus, elle est tout le monde n'a pas ces aspirations-là. Enfin, les salariés, tous les collaborateurs d'une entreprise n'ont pas l'envie de faire ça. Enfin, donc, faut vraiment distinguer. Et du coup, quand tu es quelqu'un comme moi, et il y en a, je pense, on dit, enfin, je sais pas, peut-être 15-20% dans le monde professionnel, comment tu les intègres et comment justement tu valorises en fait ce côté-là? Le truc qui est contre-intuitif, c'est qu'en fait, c'est de se dire qu'une personne, si elle est à ta disposition, elle va te permettre tu vas beaucoup plus en tirer quelque chose. Tu vois, il y a un rapport très presque d'exploitation. Tu vois, de se dire, si j'ai cette personne 100% du temps, j'en tirerai un meilleur parti. Et du coup, ce qui est contradictoire, c'est ben justement ce que tu dis, c'est que il y a toute la valeur conseil. Tu vois, de dire ce que tu as vu ailleurs, d'avoir une journée où en fait tu concentres une énergie qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que
C'est clair.
tu vois, enfin moi ma conviction, bon, après j'ai des convictions assez fortes, c'est que on devrait pas travailler pour une entreprise 5 jours par semaine, tu vois. Je trouve que il y a des énormes redondances, que ce soit par les réunions, que ce soit par les, tu vois, franchement, quand t'es, enfin, souvent quand t'es salarié, tu finis ta semaine, tu dis mais c'est la même que celle d'avant, c'est la même que celle, tu vois. Et ça, je trouve que cette approche est un peu très contradictoire. Alors, on est en train d'y réfléchir avec le télétravail, mais pas vraiment. En fait, on va quand même un petit peu là-dessus. Et moi, il y a un livre, alors je sais plus, c'est un Américain, sur le enfin, qu'est-ce que, enfin, en gros, c'est quelqu'un qui dit, si tu travailles que 2 heures par jour, qu'est-ce que tu ferais, tu vois? Et j'avais lu, je crois que j'avais pas lu le livre, mais j'avais lu un article. Et en fait, ça m'a marqué toujours, c'est de dire, si ma journée de travail ne durait que 2 heures, qu'est-ce que j'en ferais? Alors, je pense que quand tu es sur plein de sujets et que tu es indépendant comme on l'est, tu as une profondeur qui est illimitée. Mais par contre, je pense qu'il y a plein de salariés qui devraient aussi se poser cette question. Et voilà, après, bon, c'est comme ça, quoi. Tu vas pas squeezer les réunions, mais moi, je sais que, tu vois, j'avais un comportement en entreprise qui était pas toujours compris. Parfois, moi, il fallait que j'aille partir dans un café. Je pense que ma boss, si elle entend ça, enfin, mon ancienne boss, si elle entend ça, elle devenait fou, elle me disait, mais il est où Mathieu, tu vois, il est où? Mais en fait, j'avais besoin de changer de cadre parce que dans un café, je switchais, je retrouvais de la créativité. Un jour, je lui ai dit, écoute, faut que j'aille bosser une semaine à New York, tu vois. Elle a pas trop, enfin, tu vois, c'est dur parce que autour de toi, tu as des salariés, qui veulent, enfin, tu vois, qui se posent, enfin, qui ont pas forcément ces envies. C'est
Ouais,
dur à gérer, tu vois. Et
clairement.
en fait, moi, ça me fait avancer de changer de cadre, tu vois. Enfin, ça fait du bien, ça déploie la créativité, ça maintient un rapport de confiance. Voilà. Et puis moi, je suis
Ouais,
assez
super
passionné sur mes
intéressant.
sujets. Je suis assez
Ouais.
passionné sur mes sujets, donc l'entreprise peut me faire confiance, en fait, sur le fait de respecter, en fait, la mission.
Ouais, mais c'est intéressant ce que ça renvoie à un truc qui est revenu plein de fois sur le podcast, mais qui me semble hyper important. Et à chaque fois qu'on le souligne, je me redis, putain, c'est vrai que c'est important pour nous en tant qu'indépendants, mais en salarié aussi, je pense, c'est la connaissance de dans quelles conditions est-ce que je travaille le mieux, de quoi j'ai besoin pour faire donner le meilleur de moi sur mes missions, donner le meilleur moi dans la qualité de ce que je produis. Et j'ai l'impression que, comme tu le dis là, tu le soulignes, t'as conscience que ton environnement a un impact sur ce que tu fais, du coup tu peux changer d'environnement en fonction de ce sur quoi tu travailles. T'as conscience qu'il te faut de la diversité pour nourrir ce que tu fais et donc pas être 5 jours par semaine sur la même mission. Et du coup tu peux construire ton activité basée sur ces savoirs-là plutôt que parce que tu pourrais très bien te dire, ben moi mes missions je vais faire une semaine chez un client puis une semaine chez un autre où tu fais des missions plus longues, ce qui est le cas de d'autres personnes qui font la même chose que toi. Alors que toi, au contraire, c'est plus réparti de manière régulière, mais sur plusieurs semaines et un jour par semaine, quoi.
Ouais, et t'as raison de souligner que en fait, quand t'es indépendant, moi je me suis rapproché de cabinets, en fait, quand je me suis lancé au tout début, qui fournissent des missions, et en fait eux ils ont beaucoup de missions qui durent 6 mois, tu vois, genre est-ce que tu peux faire
Ouais.
6 mois pour tel grand groupe et tout. Et en fait moi je les ai tous refusés. Je leur disais écoutez désolé moi c'est pas je me suis pas mis à mon compte pour ça, donc je veux continuer à garder ma clientèle et à travailler pour différents clients. Et ça, enfin dans les approches de freelance, enfin quand on se lance, de garder ses principes, c'est fondamental. Et moi, j'ai vraiment, c'est un truc que j'ai pas voulu y couper, quoi. Donc je me suis privé de mission, enfin régulièrement j'ai refusé, mais j'étais cohérent, quoi.
Tu me fais le bon lien. Un des sujets, comme je disais, sur lequel je voulais discuter avec toi, c'est le sujet de la manière dont tu t'es positionné au début de ton activité et comment ça a évolué dans le temps. Ce que j'entends, c'est quand tu t'es lancé, tu as continué de travailler avec Sendinblue, ton ancien employeur, et je pense que c'est une super bonne pratique pour ceux qui peuvent garder un très bon rapport avec leur ancien employeur qui était déjà en CDI, de continuer avec eux en tant que client. Mais je me demande, du coup, à ce moment de lancement, quand tu continues de faire les mêmes choses que tu faisais avant pour Sendinblue, comment tu te présentais à l'extérieur à d'autres clients à ce moment-là? Est-ce que tu avais déjà ce positionnement que tu as aujourd'hui de, si je reprends ta phrase LinkedIn, c'est j'aide les acteurs de la French Tech et les grands groupes à acquérir davantage de clients sur les volets acquisition, SEA, etc. C'était déjà ça à l'époque ou pas?
Alors moi, en fait, le contexte est ce que j'ai fait chez Sendinblue aussi. Donc chez Sendinblue, moi
Ouais.
j'ai fait deux choses que je décris sur mon site qui s'appellent acquisition et mesure de performance. Donc quand j'étais chez Sendinblue, l'acquisition, moi j'étais la personne responsable. Enfin, j'étais d'ailleurs le seul à gérer le compte Google Ads, donc le search. Alors il s'avère que c'est un des gros canaux, voilà, de cette entreprise. Donc c'était un méga challenge. J'ai grandement contribué à la croissance de Feminine Blue par avoir, enfin, en ayant vraiment structuré et bien pensé ce canal. Et du coup, donc là c'est un premier volet que j'ai aussi développé avec la partie mesure de performance. Donc la mesure de performance, c'est qu'en fait quand tu fais de l'acquisition, il faut mesurer ton trafic, comprendre les taux de clic, comprendre la conversion. Mais je l'ai, bon alors le fondateur de Sunny Blue c'est un polytechnicien, donc on va dire que sur la partie data il m'a légèrement challengé, puis moi j'adore ça. Donc après la partie Google Ads, j'ai mis en place tout ce qu'on appelle la BI, business intelligence. Donc j'ai développé l'outil qu'ils utilisent pour suivre la mesure de performance, et voilà. Et ça, je me suis rendu compte que c'était tellement utile. En fait, c'est tellement puissant pour une entreprise de prendre des décisions avec des éléments chiffrés, que quand je me suis lancé à mon compte, je me suis dit, voilà, moi, le premier truc que j'ai dit, je me souviens, j'avais écrit la première chose que j'ai fait, c'est faire une carte de visite. Tu vois. Et sur ma carte de visite, j'avais écrit une phrase qui était des visiteurs et de la data pour avoir plus de clients. Et en fait, c'est l'idée, c'est que c'est ça. C'est pour ça que le digital est, fantastique, ça est vraiment à une valeur ajoutée. Par rapport au marketing traditionnel, c'est qu'on peut tout mesurer, et comme on peut tout mesurer, du coup on peut tout faire progresser. Tu vois, c'est comme ça que Sending Blue aujourd'hui est ce qu'il est. C'est qu'en fait, comme tout est mesuré, mais c'est le cas de BlaBlaCar, c'est le cas de Google et tout. Donc c'est fort de ces deux expériences, enfin ces deux facettes. Après, je me suis lancé, enfin j'ai fait mon site, je me suis lancé, et tout de suite, moi j'ai voulu écrire des articles sur le SEA. Et la première chose que j'ai fait, tu vois, quand t'es freelance, moi je m'étais fixé le 5 septembre rentrer. J'avais pris un mois de vacances. 5 septembre, je rentre et je me dis, allez, c'est parti. Et en fait, mais tu sais pas ce que tu vas faire, tu vois. T'arrives le 5 septembre, t'as feuille blanche, tu vois. Je sais pas si t'as connu ça, mais tu pourrais faire, tu peux te mettre à faire du LinkedIn, tu peux te mettre à faire
tu peux tout faire.
Du Twitter, tu peux tout faire, tu vois. Et moi, le premier truc que j'ai fait, c'est de rédiger des articles sur le site webmarketing.com pour partager en fait mon expertise en SEA. Je me souviens, l'article, c'était comment auditer son compte, c'est la rentrée, comment auditer son compte Google Ads, tu vois. Et là, tu vois, l'article, tu sais, c'est pas publié tout de suite, donc en fait, il est publié 2 semaines après. Mais il s'avère que de cet article, tout de suite, je chope un autre client qui était un CRM assez important, qui avait pas mal levé de fonds, qui s'appelle Team Leader. Alors aujourd'hui, ils sont je crois, hollandais, soit belges, je sais plus. Et voilà. Et du coup, tu te dis, mais ça se structure peu à peu. Et voilà. Et donc, je suis resté sur la facette SEA parce que c'est du contenu sur lequel je sentais que j'avais une valeur ajoutée en le produisant, tu vois. Je voyais bien qu'il y avait pas forcément cette profondeur et cette… tu vois, d'autres personnes n'ont pas poussé aussi loin certains sujets, donc j'avais cette opportunité. Et donc de fait, rapidement, moi j'ai continué à trouver des missions sur du SEA.
Ce que je comprends de ton positionnement sur ce sujet-là, qui effectivement, comme tu dis, plus poussé que un consultant SEA qui par exemple aide quelqu'un à pour la première fois utiliser Google Ads. Moi, ce que je comprends de ce que t'apportes le plus, c'est des entreprises qui investissent déjà beaucoup sur le sujet, les aider à structurer pour optimiser et mieux mesurer leur performance sur le canal. C'est ça?
Ouais. Bah, en fait, quand tu dépenses, alors c'est pas des chiffres, je dis un chiffre comme ça, mais quand tu dépenses 50 000 euros par mois sur Google, et d'ailleurs, j'en parlais là dans mes bureaux, c'est absurde d'aller mettre 50 000 euros chez Google en search pour derrière aller mettre des prestataires de qualité moyenne. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que si tu as un bon prestataire qui te fait gagner, allez, de toute façon, tes campagnes, que ce soit Facebook, Google, il y a toujours une partie qui est mal dépensée. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur tu feras jamais la perfection. Mais par contre, ce qui change, c'est le pourcentage qui est bien dépensé versus ce qui est mal dépensé. Donc, si tu as quelqu'un qui connaît pas et qui fait ça lui-même, il y a de fortes chances qu'il y ait 25 à 30% qui soit mal dépensé. Mais en général, quand une boîte dépense 50 000 euros, il y a quand même quelqu'un. Mais si cette personne, elle est pas bonne, ça va faire deux choses. C'est que non seulement il y a une partie qui peut être mal dépensée toujours, donc si c'est 10, même si c'est 10%, 10%, tu vois, ça fait déjà 5 000 euros. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux mettre sur de l'expertise ou mettre ou filer cet argent à Google. Moi, je pense que, enfin, c'est quand même relativement logique de se dire qu'à ces montants-là, en fait, c'est, tu vois, c'est comme les agents immobiliers, tu vois, enfin, faut mesurer en fait l'enjeu qu'il y a. L'enjeu, c'est d'économiser des montants colossaux. Donc, en fait, pour moi, de proposer cette expertise avec un niveau un peu plus avancé et de proposer sur des gros, enfin des acteurs qui dépensent beaucoup, ça fait sens, mais surtout rapidement, ils avaient un retour sur investissement, quoi.
Ouais. Juste pour essayer de clarifier pour les gens qui nous écoutent, qui ont aucune idée de ce dont on parle depuis 2-3 minutes. En gros, ce que Mathieu fait, c'est sur Google, quand vous faites des recherches, il y a toujours des liens sponsorisés qui sont vers le haut. Et pour investir là-dedans, du coup, des entreprises payent comme de la publicité sur Facebook, mais sur Google. Et du coup, ce que j'entends aussi dans ce que t'apportes le plus aux boîtes, c'est au début, tu vas commencer. Et peut-être qu'une entreprise a quelqu'un qui les a accompagnés au début de leur utilisation du SEA. Ça fonctionne, on investit de plus en plus, on monte. Mais je pense à un moment donné, effectivement, ce que tu disais, c'est tu as un palier de ta compréhension si tu vas pas creuser et pousser plus loin. Et effectivement, il y a peut-être des gens genre qui ont accompagné de voilà, j'investis de 0 euro, on commence à 10 000 euros par mois parce que ça tourne super bien. Et je pense que pour le gap au-dessus de 10 000 euros par mois à 50 000 euros par mois, c'est pas du tout les mêmes compétences. Et c'est là où je pense que il y a effectivement le delta dont tu parlais qui peut leur faire économiser beaucoup d'argent. Et du coup, toi, t'as une valeur ajoutée incroyable quand t'arrives pour une boîte et tu dis, OK, bah là, selon mon audit, il y a 30% de vos chiffres de vos 10 000 euros investis par mois qui partent un peu dans le néant. On va les économiser et on va les réinvestir pour que ça régénère du chiffre sur vos clients. Et du coup, la boucle, elle est hyper vertueuse, quoi.
Carrément, et tu vois, là je prépare un webinar avec Conto que j'ai eu comme client, que j'ai pareil aidé à essayer de faire grossir le compte, un peu ce que tu dis, tu vois. Et en fait, ouais, une des problématiques, c'est de faire grossir, en fait. La réflexion n'est pas de dire j'ai 20 000 euros à mettre sur Google. La réflexion, c'est de dire j'ai 20 000 euros et demain, je potentiellement, j'aurais plus de clients et pourquoi pas dépenser 50, 60, 70 000, tu vois. Donc, c'est en mesurant et en faisant très bien les choses qu'en fait, tu vas donner de la puissance et tu vas faire décoller, en fait, ton compte. Donc, voilà.
Ouais. Je pense que c'est marrant parce que je me dis, pour des personnes qui sont pas du tout là-dedans, elles doivent se dire que c'est des montants faramineux à dépenser sur des Google Ads ou des Facebook Ads ou ce genre de choses. Mais effectivement, c'est cool parce que il y a des personnes qui sont pas là-dedans qui vont se dire, putain, en fait, il y a des boîtes qui dépensent ces montants-là pour leur acquisition client. Et ce que je trouve top là-dedans, du coup, c'est que toi, avec la connaissance du marché que tu as là-dessus, déjà, tu peux identifier ce genre de besoin. Mais je trouve que tu l'as fait de manière hyper précise. Dans la manière de communiquer et dans ta manière de te positionner, et c'est à mon sens hyper important cette précision quand tu connais bien ton marché dans le positionnement, où t'as une offre sur ton site par exemple qui est pour les gens qui dépensent plus de 10 000 euros par mois sur Google Ads ou sur Bing Ads et qui ont des équipes SEO en interne. Et là, du coup, qu'est-ce que t'apportes? T'apportes plus de structuration et aider l'équipe à grandir et à se développer. Et je trouve que c'est hyper précis, là où certains vont pouvoir dire juste faites du SEA, c'est bien, tu vois.
Ouais. En fait, c'est que la problématique que j'ai rencontrée, c'est que les acteurs avec lesquels je voulais travailler qui dépensaient ces montants-là avaient souvent l'envie d'avoir une équipe, tu vois. Et ils voulaient internaliser.
Plutôt qu'une agence.
Voilà, et ça se défend hein, comme idée. Il y a deux enjeux derrière. Les profils en acquisition et notamment en SEA, tu peux demander à beaucoup de recruteurs, c'est assez galère, tu vois. Il y a pas beaucoup de profils. Donc cette volonté en fait d'accompagner ces acteurs-là m'a poussé à m'adapter au contexte. Et en l'occurrence, que souvent il y avait des personnes en place. Donc qui tu veux convaincre déjà ? Ça c'est la première réflexion. Est-ce que tu essaies de convaincre le fondateur, qui est celui qui a une vision complètement à qui le message de réussir et de croître fonctionne, mais le directeur marketing et les équipes marketing que tu vas déranger quelque part parce que tu remets un tout petit peu en cause certains éléments du travail. Et ça, c'est, tu vas les froisser. Donc, enfin, tu peux froisser si jamais t'es, tu vois, faut vraiment y aller avec des pincettes. Et ça, c'est délicat. Et donc, en fait, je l'ai fait chez Sendin Blue puisque eux ont recruté des personnes. Et du coup, j'ai continué à fournir du conseil sur la partie SEA avec les équipes en place. Donc, c'est challenger les équipes parce qu'en fait, les équipes qui sont en place, soit elles ont pas, enfin, tu vois, elles ont besoin de d'un recul, tu vois, elles ont, tu vois, t'es le nez dans le guidon. Donc, je me suis rendu compte de la valeur ajoutée à cela, de ce que je pouvais voir par ailleurs. Alors, ça, c'est le conseil en général. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai proposé un peu cette offre parce que c'était hyper pertinent et les équipes avec qui je travaillais étaient souvent assez assez contentes et voilà, j'avais une bonne des bonnes interactions, mais comme je te disais, pour convaincre, quand je parlais à la nouveau, c'était pas toujours facile. Est-ce que je parlais au directeur, enfin au fondateur, ou est-ce que je parlais au directeur marketing? Très délicat.
Ouais, c'est intéressant que tu soulèves ce point parce que je pense que c'est un enjeu pour tout indépendant de bien comprendre les circuits décisionnels dans les entreprises qu'ils ciblent et avec qui ils veulent travailler, tu vois. C'est pas la même chose si ta cible, c'est, comme tu disais, Quanto, Sendin Blue, avec les circuits décisionnels qu'il y a dans ces milieux-là, que si ta cible, c'est l'indépendant ou la petite boîte où ils sont deux ou trois qui se lancent pour la première fois sur du référencement payant. Comment tu t'y es pris un peu pour essayer de comprendre ces circuits décisionnels et savoir à qui tu dois t'adresser, pardon, et du coup, comment adapter ton message?
Alors, j'ai pas forcément été, j'ai un peu tenté, tu vois. Je dirais pas que j'ai structuré cette approche. Il y a plusieurs choses. Tu vois, à un moment, au bout de 3 ans, je recherchais à trouver d'autres clients. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les clients avec lesquels j'ai bossé. J'ai filtré par chiffre d'affaires et j'ai regardé. Et en fait, j'ai vu que le top 5, c'était du réseau, tu vois. Et je me suis rendu compte que, alors, le truc qui est cool, c'est quand tu commences à avoir un peu plus de 30, 32, 33, que les personnes que t'as pu côtoyer, soit dans l'univers, enfin, dans tes études ou dans ton réseau, bah, ils commencent à entreprendre, ils commencent à avoir des postes un peu plus élevés. Donc, forcément, ça, c'est précieux, tu vois. Enfin, tu vois, moi, Conto, je pense que je les ai convaincus parce que le fondateur Alexandre, c'est un pote de pote. Que j'ai rencontré à un dîner, mais est-ce que je l'aurais convaincu sinon? C'est hyper bizarre parce que tu vois, par exemple, au lancement de Conto, il m'avait appelé pour me poser des questions sur le SEA. Moi, j'avais laissé, tu vois, tu te dis, bon, bah voilà, il veut lancer une banque en ligne, très bien, le truc part, ça part. Et puis 3 ans après, bon, Conto, c'est quand même devenu énorme et moi, je les avais rencontrés quand même plusieurs fois. J'avais fait des déjeuners, mais voilà, les équipes sont en place. Tu vois, c'est normal. T'as des personnes qui ont été recrutées, bah ils ont carte blanche, on leur laisse leur chance. Donc c'est et notamment ces équipes en place finalement sont assez hermétiques à la. Tu vois, elles ont des convictions qu'elles nourrissent parce qu'elles peuvent lire. D'où justement, si tu veux parler en fait à ces équipes-là, faut être vraiment dans l'évangélisation et d'avoir une légitimité. Donc tu te positionnes comme tel. Et moi, par exemple, c'est quelque chose que je suis en train de trouver un petit peu récemment sur mes sujets de SA, où je sens, tu vois, que je parle à des gens qui font de l'acquisition, qui sont des responsables marketing, ce que j'arrivais pas forcément à faire au tout début, tu vois. Et tu sens qu'il faut qu'il y ait quand même une légitimité, une certaine assise. Pour que les personnes très opérationnelles t'écoutent, tu vois. Et je pense à des personnes, enfin, je pense que tu vois très bien qui est Danilo Duchesne sur Facebook.
Ouais.
Lui, il a fait l'approche par le bas, tu vois, bottom up. Donc, il a massivement convaincu de la cible de études universitaires jusqu'à 4 ans d'expérience, tu vois. Donc, bim. Et c'est eux qui ont remonté son message en disant il est comme ça. Moi, je pense que j'ai quand même plutôt eu une approche inverse qui est de descendre, tu vois. Et donc, du coup, d'aller chercher les fondateurs. Tu vois, c'est un exemple, j'ai bossé avec CityScoot. CityScoot, je suis pas loin d'avoir harcelé le fondateur je crois que c'était du LinkedIn. Il est sorti sur une interview BFM. Je lui ai envoyé un message pour le féliciter. C'est des trucs. Et finalement, il a fini par transférer à son responsable marketing. J'ai pu faire des missions avec eux. C'était top. Mais je sais pas si ça se rationalise, tu vois, si ça se dédouble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai toujours travaillé mon réseau, j'ai pris conscience de l'importance de le travailler et de nouveau, parce que c'est ultra précieux. Et après, d'aller sur la partie, évangélisation, un peu, comme je dis, à la Danilo Duchesne, ça demande quand même de la bonne réflexion, parce qu'il y a tellement de contenu aujourd'hui, qu'il faut vraiment tacler l'angle de la bonne façon, quoi.
Ouais. Ben, j'entends deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir dans ce que tu dis. Effectivement, le premier, c'est le réseau. À quel point, franchement, c'est un game changer. Moi, même aujourd'hui, alors que j'ai annoncé dans la plupart de mes canaux que j'arrêtais mes missions indépendantes pour l'année 2021, je continue de recevoir des propositions qui me viennent de mon réseau. C'est drôle d'ailleurs. J'étais en contact avec CityScoot récemment là pour potentiellement une mission de rebranding qui me vient de quelqu'un avec qui j'ai travaillé, qui était une autre personne missionnée sur un rebranding pour un autre client que j'ai fait, je crois, il y a un an et demi, deux ans, tu vois. Et du coup, qui me dit, ah, tiens, Thomas, c'est la personne avec qui tu dois discuter pour ça. Alors que je ne fais plus ces missions-là, mais c'est dingue que des années après, ça continue. Et je pense que c'est un point important sur lequel vraiment s'appuyer. Et la deuxième chose qui est intéressante, qui je pense est liée, je reviens à ce que tu disais au tout début de l'épisode, tu disais qu'un de tes enjeux, ça a toujours été d'augmenter ton employabilité. Et je pense que le réseau, c'est un vecteur de ça. Comme tu dis, et ce que tu as fait avec le fondateur de CityScoot, par exemple, quelque part, c'est développer ton réseau. Et aussi le côté légitimité, comment tu augmentes la perception de tes clients potentiels sur ta légitimité sur le sujet, etc., etc. Tu dirais que du coup, c'est quoi, à part réseau, tu as parlé de création de contenu un peu, la réflexion de te positionner sur tes contenus aussi, c'est quoi les actions clés que tu as mises en place pour augmenter ton employabilité pardon, et légitimité en indépendant?
Alors, il y a quand même suivre l'actualité, je pense. Tu vois, de s'intéresser à cet écosystème startup. Il y a ça, il y a aussi comprendre les mécanismes qui nous guident, en fait. Enfin, tu vois, moi je sais que par exemple pendant pas mal de mois j'ai travaillé avec une coach et ça te pousse à évoluer, en fait. Enfin, comment tu continues à travailler ton employabilité. Quand tu le transposes, quand tu es indépendant, c'est comment tu continues dans toute ta vie d'indépendant d'avoir de la motivation et d'aller plus haut l'année suivante, tu vois. Je trouve. Parce que autant qu'est-ce que c'est, moi, la définition derrière l'employabilité, c'est de pas arriver à 45 ans et de d'être à la merci d'une entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Pour comprendre, en fait, ce qui m'était arrivé en finance, c'est que j'étais isolé sur un type de métier, tu vois, un truc super précis qui m'intéressait partiellement. Ça pouvait m'intéresser encore peut-être 2 ans, 3 ans, mais jamais j'aurais fait toute ma carrière dessus.
Toute ta carrière, ouais.
Et c'était, enfin, moi c'était mon traumatisme, tu vois, de me dire à 45 ans tu t'es obligé de rester dans l'entreprise parce qu'en fait t'es plus employable, quoi. Et donc en fait l'idée de toucher à plein de trucs, de continuer à se former, c'est un peu mon moteur, tu vois, mon truc très 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 fort. Donc forcément, se former, échanger avec des personnes comme toi, comme d'autres indépendants qu'on connaît, de continuer d'échanger avec des fondateurs, d'écouter des podcasts, tu vois, ça clairement, je pense que je l'ai fait tout le temps. Enfin, d'ailleurs, depuis que je suis dans le digital, j'ai cette approche très très continue. Et ensuite, donc, une fois que tu te dis t'es indépendante, a priori, tu te dis, t'as réussi un peu l'idée de l'employabilité, tu vois. Si t'as fait 2-3 ans d'indépendante, t'as réussi ce truc-là. Mais après, c'est de te dire, je vais pas faire la même chose pendant 15 ans, tu vois. Je vais pas avoir, pareil, à 45 ans, d'être toujours l'indépendant qui vient dans les boîtes, ça fonctionne plus. Je pense que j'en aurais marre. Donc là, tu te fixes d'autres objectifs. Et je pense que depuis que je suis indépendant, moi, le truc que j'ai toujours essayé de, de faire, enfin, que je fais toujours, c'est d'avoir des objectifs dans année, enfin annuels. Tu vois, je me fixe des objectifs annuels.
Et c'est ça qui guide du coup next step, le pas d'après, le pas d'après, le pas d'après, quoi.
Exactement. En fait, c'est, je mets en œuvre les choses pour que il y ait des étapes suivantes en fait, et que, ça, et que l'année 2021 ne soit pas la même que 2020 et que 2019, et qu'il y ait d'autres choses, ouais, en fait. Et ça, c'est un peu exigeant, mais je pense que c'est hyper important, quoi.
Si du coup on re-regarde un peu les cinq dernières années de ton activité freelance, tu dirais que c'est quoi les cinq grosses étapes que t'as passées, si on essaie de vraiment revenir à genre les cinq marches de l'escalier que t'as suivies?
Ouais. Bah, en fait, quand t'es indépendant, tu te dis, moi, je me définis pas totalement comme entrepreneur parce que tu mets pas plein de choses en œuvre, mais tu dois quand même gérer un peu des choses. Enfin, tu vois, par exemple, où j'alloue mes efforts, quel budget je vais mettre, est-ce que je réinvestis, est-ce que j'achète un très bon ordinateur ou un ordinateur moyen, tu vois. Enfin, c'est vraiment des réflexions. Est-ce que je fais des cadeaux à mes clients en fin d'année? Tu vois, il y a ouais, toutes ces réflexions. Et donc, en fait, au final, je me dis que sur les cinq ans, il y a quand même une approche entrepreneuriale qui est quand même assez forte. Même si dans le quotidien, ça ressemble quand même beaucoup dans l'opérationnel à ce que tu peux faire en CDI, tu vois. Donc moi, dans le chemin, enfin, la première année, c'était d'arriver justement à faire des missions, à trouver en fait ce que tu fais comme indépendant. Avec le côté, je dois trouver ce que je vais faire, quoi.
Ouais, le positionnement. Quoi.
Le positionnement, mais aussi l'activité, quoi. En quoi va consister mes journées? Et parce que tu sais, t'as les journées où tu fais des missions et les journées où tu fais pas de missions. Et ça, l'équilibre, ouais, il est. Alors moi, j'ai plutôt eu la chance que mes années ont toujours été bien remplies en termes de missions. Donc après, comment tu répartis les missions? Donc la première année, ça a été plutôt d'arriver à organiser tout ça et de trouver des clients. La deuxième année, j'ai commencé à me dire, j'aimerais bien un peu plus de références et travailler un peu moins avec des petites structures. Parce qu'il y a certains enjeux, faut pas se mentir, quand on est freelance à travailler avec des plus petites structures, et c'est vrai que c'est plus confortable de travailler avec des groupes qui ont des moyens et qui ont aussi une approche avancée, tu vois. Donc après voilà, et puis surtout aussi d'avoir des références, tu te rends compte que ça aide, tu vois. Enfin, ouais. Aujourd'hui quand je parle à un client et que je dis Fanny Blue Conto City Scout, bon, t'as fait une grosse partie du boulot, quoi.
Ouais, du et, travail.
Tu vois, t'as bien avancé. Donc après, voilà, l'étape après trouver les gros clients. Après, c'était devenu essayer de trouver un peu plus son positionnement. Et là, maintenant, récemment, moi, c'est de faire grossir mon activité et potentiellement de recruter. Et là, j'ai plus la pression d'arriver dans une dimension plus entrepreneuriale.
C'est quoi, du coup, ta vision justement sur ça? De à partir de quel moment tu t'es dit là, j'arrive à un palier? Et la prochaine marche, c'est que je vais m'entourer, je vais recruter et être devenir une équipe. C'est quoi le moment où tu t'es dit, ok, ça doit évoluer dans ce sens?
Alors moi, c'est toujours pareil. Ça cogite et à un moment, j'ai un truc qui me fait accélérer, tu vois. Donc Sydney Blue, c'était pareil. Je voulais un peu partir et puis j'avais passé des entretiens et avec une autre boîte, ça avait capoté. Et puis finalement, allez, je suis parti en indépendant. Mais c'était ça dont j'avais envie. Et là, sur la boîte, c'était chez Conto en fait, où justement ils ont souhaité que je fasse plus de jours de mission, tu vois, que je travaille plus longtemps par semaine. Et moi j'ai dit non parce que c'est toujours pareil, je veux pas passer mon temps. Et donc j'ai non seulement pas eu la possibilité de faire plus de missions ou de placer quelqu'un. Mais en plus de ça, comme eux, ça convenait pas forcément à l'approche quotidienne qu'ils voulaient avoir. J'ai aussi, aujourd'hui, je travaille pas avec Conto en ce moment à cause de ça. Tu vois, alors on va peut-être retravailler ensemble, mais voilà. Donc j'étais doublement perdant. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. En fait, il y a un moment où faut aussi, tu vois, c'est pas vers le bas, c'est pas, ils ont pas arrêté, ils voulaient plus, tu vois. Donc ça, c'est une frustration énorme. Et du coup, moi, je me suis dit, non, mais là, faut que je construise quelque chose de plus solide, quoi.
Je trouve ça tellement intéressant et je pense que c'est un bon cas de figure. C'est la mission se passe hyper bien, ton client est satisfait, tu lui apportes les performances qu'il cherche et les résultats qu'il cherche, il veut plus de ce que tu donnes, et toi, pour rester aligné avec ce que t'as vraiment envie de vivre dans ton activité, tu dis non, je suis pas prêt à donner plus. Je trouve ça dingue, parce que je pense que beaucoup dans beaucoup de cas, on pourrait se dire, bon, bah, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver, go. Alors que là, t'es resté vraiment aligné sur voilà ce que je veux pour mon quotidien d'indépendant. Et du coup, on va dire non pour l'instant et pas être dans la peur de, ah, je vais plus jamais pouvoir bosser avec eux et tout. Je trouve ça une belle preuve de, d'alignement avec toi, quoi.
Bah, tu sais, quand on avait parlé il y a 4 mois, un truc comme ça, tu m'avais parlé de l'adrénaline que tu peux avoir à faire certaines activités, tu vois. Et en fait, moi en 2020, c'était cool parce que j'ai fait une année où j'ai fait pas mal de missions et j'avais très peu de temps et d'énergie qui me restait pour ma partie à moi. Donc là, c'est la partie chasse versus la partie mission, tu vois. Et en fait, tu m'avais dit un truc juste, tu m'as dit voilà, si tu sens quand il y a sur des activités de l'adrénaline, je crois que tu m'avais dit que toi t'en sentais plus à développer ton activité versus faire des missions et que du coup, bah naturellement tu vas un peu plus vers ça. Et ben, je crois que, enfin moi je crois que j'avais eu cet échange après la fin, mais je sentais pas l'adrénaline d'aller rajouter des jours de mission. Je sentais plutôt l'adrénaline d'aller réduire et d'augmenter le temps pour moi pour développer quelque chose. Et en fait, tu vois, j'ai déménagé à Nantes, j'ai quitté Paris, je me suis installé à Nantes fin octobre, début novembre de 2020. Et en fait, en ne travaillant plus avec Conto, j'ai libéré du coup beaucoup plus de temps pour mon développement d'activité. Et depuis novembre, quand tu travailles pour être freelance, tu vas travailler pour à peu près avoir 2-3 clients en même temps. Mais quand tu veux travailler sur un mode, recruter et s'entourer de personnes, il n'y a plus de limite, en fait. Tu peux prendre un nombre non limité de clients, tu vois. Ouais. Donc, du coup, c'est un autre travail, tu vois. Donc, j'ai dû le faire switcher. Mais en tout cas, depuis novembre, je mets une énergie et une motivation dans mon travail. Mais c'est un truc de fou. J'ai suivi ce que tu m'avais dit, c'est-à-dire d'aller vers ce qui me procure de l'adrénaline et ce qui me booste. Et en fait, tu vois, tu sens que t'as pas de limite, il n'y a rien qui t'arrête, quoi.
J'adore cette réflexion parce que c'est comme tu le disais très bien, c'est celle que j'ai eue aussi en fin d'année d'arrêter les missions où je savais que j'en aurais et je savais que c'est ce que je savais faire pour me concentrer à 100% sur ce que je fais pour les indépendants. Et c'est presque à l'inverse de ce que me disait mon cerveau de ce qui fonctionne, c'est là et c'est là où t'as déjà ta réputation et tout continue. Mais suivre plus l'information que me donnait mon corps de comme toi tu dis d'adrénaline, moi je sentais plus genre mon niveau énergétique quand je me pose sur là par exemple je suis en train de me poser sur tout le fond des systèmes techniques et de refaire mes formations et tout, et je sens que j'adore faire ça, quoi, c'est trop bien. Et mon niveau énergétique quand je rentre dans le bureau pour faire ça, il monte, alors que quand c'était pour bosser sur des missions clients, ben ça redescendait. Et je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, en fait, il y a plusieurs sources d'informations qui nous viennent de notre tête, de notre corps, du monde extérieur aussi, et voir comment je prends tout ça en compte pour prendre des décisions plus alignées, tout en gardant en compte, et je pense que c'est le bon moment d'en parler, qu'il y a quand même des enjeux de terre à terre d'une boîte, on est une boîte, et du coup, on doit avoir des finances qui tournent, etc. Et je pense que c'est un bon critère à prendre en compte, et ça me fait venir sur ça aussi, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que cette réflexion de diminuer les missions pour te concentrer sur le développement, est-ce que c'est venu avec une nouvelle réflexion tarifaire? C'est quoi aussi les paliers dans ta gestion de ce que tu fais payer à tes clients et des tarifs que tu pratiques?
Alors, tu veux dire l'envie de développer son activité? Parce que, alors, pour moi, l'envie de développer son activité n'est pas liée à la rémunération. Bien d'autres. Enfin, c'est même plutôt difficile. Non, la réflexion tarifaire. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler dans les objectifs, mais la réflexion tarifaire, c'était un de mes objectifs. C'était mon objectif genre de l'année 3, je crois, je m'étais fixé.
Ok.
Tu vois, et c'est pour ça que j'avais commencé à travailler avec une coach.
Ouais. Ben, je précise un peu ma question. Du coup, c'est quand on veut diminuer le nombre de missions ou en tout cas les jours en mission pour se concentrer plus sur du fond. À mon sens, un des enjeux, c'est diminuer le nombre de missions, mais du coup, augmenter son TGM pour continuer d'avoir une sorte d'équilibre. Toi, je pense qu'un truc qui t'a beaucoup aidé, c'est d'avoir des références de boîtes ref, de clients références sur les sujets French Tech et tout, ce qui te permet du coup de monter ta légitimité, donc de monter ton TJM, etc. C'était quoi, je suis curieux de savoir dans ton évolution, toi, comment t'as géré ce truc de monter ton TJM par rapport à baisser les missions? Est-ce que c'était rationnel comme réflexion ou pas?
Bah, en fait, mon TGM, je l'avais déjà augmenté. Donc, en 2020, en fait, j'ai fait beaucoup de missions avec mon TGM qui m'allait bien et qui me permettrait. Mais enfin, en fait, c'est pas qui me permettait parce que justement, c'est est-ce que tu raisonnes en ça me permet de vivre. Donc, j'ai tant. Et si j'arrive à temps, je résous. Moi, ce que j'ai fait en fait en 2021, c'est que j'ai pas du tout dit il me faut temps, j'ai pris. Et du coup, je pense que j'ai fait une très bonne année. Mais non, c'est juste qu'à un moment, je me suis dit non, mais là, il faut que je fasse 2 jours. En gros, l'idée, c'était que si jamais tu fais 4 jours de mission par semaine, même 3,5 en fait, parce que faut voir comme c'est intense une journée de mission, en fait. Quand tu te restes 1,5 jour dans la semaine, tu fais tes trucs administratifs, tu rappelles tous les gens que tu dois appeler, si t'as un jour et demi par semaine, tu fais rien. Donc moi, je m'étais dit, il faut que j'arrive à 2 jours de mission, 3 jours de développement de mon activité. C'est ça un peu l'idée, c'est de pouvoir vivre avec 2 jours de mission par semaine et derrière mais je pense que mon TGM quand je fais 3-4 c'est bien.
Ouais. Mais je trouve ça rejoint un peu ce que tu disais sur le fait de pouvoir mesurer les choses et tout. Je trouve que cette approche de dire mon objectif c'est de faire tant de jours de mission, tant de jours de développement par semaine pour pouvoir vivre avec ça, comment je corrèle mon TGM là-dessus? Et ensuite, comment je développe la légitimité nécessaire pour que mon TGM, qui est mon TGM cible, soit légitime. Et je trouve que de mesurer comme ça, tu vois, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne posent pas cette réflexion de combien de jours en mission, combien de jours sur le développement, coup mon TGM en fonction, etc. Et qui sont juste, faut que je remplisse mon carnet. Et si ça veut dire que je bosse tous les jours de la semaine ou peut-être même 6 jours, c'est pas comme ça que je mesure, c'est en nombre de clients ou en nombre de chiffres d'affaires, alors que la mesure de... Moi, j'adore faire ce travail-là de partir du mode de vie que tu as envie d'avoir, poser à quoi ça ressemble idéalement, du coup, comment je fonctionne sur mes TGM, sur mes offres, sur la méthode de travail que je fais, etc., pour rentrer dans ce cadre-là. Et ensuite, c'est vers ça que je tends et ensuite tu construis, quoi.
Alors, la réflexion, elle est importante. La valeur qu'on a, elle est fondamentale. Alors, une sorte de conseil que je pourrais partager, c'est que on n'arrive pas à vendre un certain prix tant qu'on n'a pas soi-même la conviction de sa valeur. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait le travail avec une coach pour, arriver à vendre le prix que je souhaitais. C'est très sincèrement, quand tu n'est pas au bon prix pour toi, enfin que tu ne vas pas valoriser correctement, le client, il va trouver la feinte, d'accord ? Donc, si tu lui dis et que t'es pas convaincu, tu vas pas être convaincu toi-même. Donc, dans ta façon de le dire, tu vas te justifier. Oui, mais non, je suis à tel prix parce que et c'est fini. Le mec, il a compris. Donc, il s'embarque et il te dit, alors dans ces cas-là, fais une demi-journée de plus, et tout. Et en fait, c'est ça. Si toi, t'as pas été toi-même convaincu, tu vas dire, OK, je veux bien, je fais ça et tout. Là, aujourd'hui, j'ai une mission. Il y a un client qui me demande de faire 3 heures de rendez-vous, 3 heures de participer 3 heures à un call. Non, c'est pas ma valeur. C'est pas ça que ma valeur, elle est pas là. Donc, je pense que ce travail-là, j'ai souvent entendu le syndrome de l'usurpateur, mais c'est plus profond que ça parce qu'en fait c'est ce que j'apporte. Enfin moi j'ai toujours un peu envie de justifier ce que j'apporte. Tu vois, j'ai envie que l'entreprise s'y retrouve. Et c'est assez difficile quand tu travailles sur le long terme. Regarde un exemple, Thomas, quand on s'est parlé, toi tu m'as donné certains conseils. Ils ont une valeur précieuse parce qu'ils m'ont permis d'avancer. Tu vois quelle est la valeur de ça? Tu me l'as pas vendu. C'est un échange. Moi parfois il y a des choses des infos que je vais donner à un déjeuner. Tu vois, quelle est la valeur de ça? Mais pourtant, cette info peut changer la vie d'une entreprise, tu vois. Donc, soit on comprend ça et en fait, on sort de la logique très opérationnelle, livrable, voilà. Donc, ça implique aussi de travailler avec des clients qui ont ces compréhensions-là. Donc voilà. Et en fait, pour moi, donc c'est vraiment la compréhension de sa valeur. Et après, donc ça, c'est pour le vendre à un client. Et après, il y a pour soi-même. pour soi-même, en fait, il faut aussi être convaincu que la journée qu'on va passer vaut le même prix que celle qu'on va vendre à un client. Donc, si tu te vaux, si tu te valorises à 1000 euros, si tu te vends à 1000 euros la journée, ça veut dire que toi, ta journée où tu développes ton activité se vend à 1000 euros. Et moi, je me souviens, enfin, tu vois, c'est déléguer des tâches, tu vois, par exemple, je sais pas, les feuilles, enfin, tu vois, il y a des certains trucs, tu te dis, mais est-ce que je dois les faire? Et si jamais tu passes 3 heures dans ta journée, pour quelque chose qui a une faible valeur ajoutée et que si tu le déléguais, la personne, ça te coûterait 50 euros, ouais. Bah en fait, voilà, faut comprendre ça. Et je pense que, enfin, moi, c'est beaucoup le fondateur de Selling Blue, Armand Tiberge, qui m'a beaucoup appris ça. Enfin, chacun a sa valeur. Donc, tu ne vas pas passer du temps à développer ton site si jamais la personne que tu peux trouver coûtera moins cher que ce que toi tu
que la valeur, tu vois, ouais.
De ton temps, la valeur de à un temps. Donc moi, si maintenant un client me propose une mission à un prix qui est plus bien, parce qu'en fait, je vais mettre la valeur dans la création de mon activité. Donc en fait, l'arbitrage, je me pose même plus la question. Ça a beau être un prix qui est intéressant, mais je mettrai ma valeur ailleurs. Tu vois. Et ça, ça met du temps un peu quand même la réassurance que t'as à faire des missions, faut la quitter avec la capacité à donner de la valeur à ses journées de démarchage, enfin de création de sa boîte.
Ouais. Je trouve que c'est un palier hyper, hyper intéressant et, comme tu le dis, très intérieur aussi. Le moment où tu te dis que tu arrives à sentir en plus, genre, à te sentir aligné avec une journée de moi, si je corrèle ça avec une valeur financière, c'est temps. Et à partir du moment où tu as cet alignement, c'est clair que, encore une fois, c'est une mesure trop cool qui te permet de, OK, où est-ce que j'alloue mon temps? Où est-ce que j'alloue ce que je fais à tel endroit, etc. Et effectivement, c'est un conseil, je sais pas si tu connais Naval Ravikant, qui est, c'est un investisseur américain, mais il l'appelle The Angel Philosopher, genre, investisseur business angel, et il lit et il parle de beaucoup de philosophie et tout. Et lui, il dit justement ce que tu dis là, c'est, fixe-toi un tarif horaire ou un tarif journée cible de ce que vaut ton temps. Si résoudre un problème te permet pas de gagner plus que ça ou de perdre moins que ça, c'est pas un problème, t'en occupe pas. Et si jamais faire une tâche, entre guillemets, coûte moins cher que le temps que ça te prendrait au tarif horaire, par exemple, donc si c'est 1 heure et que c'est moins que le tarif horaire que tu t'es fixé, délègue-le. Et tu te concentres que sur les choses où t'apportes vraiment ta valeur à toi. Et effectivement, je trouve que au tout début de son activité, c'est hyper dur à faire parce qu'on est dans cherche à savoir est-ce que je vais vendre des missions et machin, et on est un peu dans cette quête de trouver son équilibre et sa réassurance de son activité. Mais à partir d'un moment, je pense que c'est un palier hyper important à passer où l'ancien monde nous retient un peu en arrière et il faut rentrer dans cette nouvelle perspective des choses, quoi.
Ouais, t'as raison, et c'est là où être indépendant, ce n'est pas juste avoir une expertise, c'est aussi c'est là, enfin, tu vois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un peu, c'est vrai et pas vrai de dire qu'un freelance n'est pas entrepreneur, parce qu'il doit il a quand même cette dimension d'organiser son temps sans qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Donc si demain, tu vois, enfin moi je pense à la boîte Germinal, tu te dis que le mec il est parti sur LinkedIn, mais je sais pas, demain moi si je commençais ma carrière en tant que freelance, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que tu vois, t'as plein d'éléments, tu vois, qui sont que tu peux avoir envie de faire. Alors moi c'est une reco que je donne à mes clients aussi, tu vois, c'est est-ce que tu peux pas faire par mimétisme. Donc si Grégoire Gambetto de chez Germinal, il adore communiquer sur LinkedIn, ça sera peut-être pas le truc de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, faut aussi trouver le truc qui est dans son ADN, et c'est ça, et c'est comme ça qu'en fait tu recommandes. Donc, tu avances. Et du coup, je pense que c'est vrai que la dimension de se comprendre quand on est freelance. Enfin, moi, je recommanderais à n'importe qui de s'accompagner en tant que freelance d'un coach, mais dès la journée 1. Alors surtout les plus jeunes, parce qu'en fait je trouve que tu vois la communauté freelance est très 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 jeune. Donc en fait tu parlais des choses où tu t'écoutes, tu vois, c'est des choses qui viennent avec les années. Tu parlais de la compréhension du marché du travail, le réseau. Tu vois, moi je me dis, quand t'es jeune et que tu te lances à 22 ans en tant que freelance, OK, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas travaillé. Parce que dans le réseau, il y a par exemple tous les gens avec qui tu as travaillé, tu vois.
Tout, ouais, moi, tous moi, les anciens collègues.
Ouais, quand tu te lances en tant que freelance, t'as plein de personnes qui, tu vois, avec qui t'as bossé auparavant, ils parlent de toi, ils disent, ah, tiens, je connais un thème, hein. Donc ça a été aussi un truc assez important. Tu vois, moi, les deux startups avant pour lesquelles j'ai bossé, donc Sendinblue et avant j'avais bossé pour Sporidy, j'ai fait des missions pour les deux boîtes, tu vois. Et en fait, comprendre ça, et je me dis, donc du coup, pour revenir dans le sujet, enfin, c'est pour les plus jeunes, je me dis qu'il y a des enjeux de freelance qui sont, c'est quand même, c'est pas, ça demande un peu d'expérience. C'est pas juste une expertise métier.
Ouais, grave. Et c'est là où je te rejoins sur la réflexion de, on est quelque part quand même dans un cadre entrepreneurial parce qu'on doit allouer nos ressources, le temps qu'on passe, l'argent qu'on investit, enfin toutes ces choses que tu as dit, pour plein de différentes choses. Il faut trouver la forme d'équilibre entre se former, de développer son expertise métier, s'entourer de réseaux stratégiques pour nous aider dans ce développement-là, travailler sur nous-mêmes et les limites intérieures qu'on peut se fixer et qui nous empêchent de passer des caps. Voilà, il y a tellement de... une telle variété. C'est ce que je trouve passionnant justement dans ce parcours indépendant. Il y a toutes ces choses qu'on doit prendre en compte quand on comprend qu'on n'est pas juste des compétences techniques qu'on vient coller à des besoins techniques. Je trouve que ça ouvre tellement de portes et c'est clairement là où moi j'ai envie de contribuer au max avec ce podcast, avec mes contenus, c'est voir tous les liens qu'il y a entre ça et essayer de clarifier, OK, bah, aujourd'hui tu te lances, c'est quoi ton background de tout ce que tu as comme ressource en te lançant et comment à partir de là tu dresses un plan d'action pour aller dans le bon sens.
Ah mais c'est évident que ton podcast cartonne parce que justement on se rend vite compte, je pense, quand on est freelance, que si on veut pas aller dans le mur, il faut construire, en fait. C'est de la construction. Mmh. On fait pas de l'exécution, l'exécution c'est quand tu fais ta mission, tu vois. Mais la construction c'est lourd. Enfin c'est
plus compliqué, la mission, quoi. C'est la pointe de l'iceberg qu'on voit au-dessus de la mer, quoi.
C'est la récolte, tu vois. En fait, c'est, ouais. J'ai posté ça hier sur LinkedIn en parlant d'acquisition, mais c'est vrai pour tout. Tu vois, en fait, faut pas se concentrer sur la récolte du jour. Faut se concentrer sur les graines que tu sèmes, quoi. Pour demain, quoi. Et du coup, c'est quand même pas évident, quoi. Je me dis quand pour quelqu'un qui est très jeune, d'avoir tous ses tenants et aboutissants, il y a des choses à, bon, après, il y en a qui le font super bien, tu vois.
Bon, on va tâcher de clarifier tout ça. On arrive du coup, Mathieu, sur les questions rituelles de fin d'épisode, en parlant de choses pas évidentes. On va se replonger dans tes 5 ans d'indépendance. C'est quoi la plus grosse galère que tu as vécue et comment tu l'as dépassée?
Qu'est-ce que j'ai eu comme grosse galère? Alors, très sincèrement, j'ai plutôt eu... ça a été plutôt cohérent, tu vois, que ça soit pour trouver des clients, pour en vivre, pour arriver, tu vois, à communiquer. Mais pour moi les grosses galères, enfin c'est plus dans l'activité, ce qui est assez galère, et ça a toujours été un peu le cas, c'est la partie contenu. C'est-à-dire qu'en fait tu vois, enfin moi quand je fais des articles je fais souvent des articles un peu longs, mais je sais pas je me perds, tu vois, dedans, et en fait d'avoir un alignement sur cette partie-là, je trouve que c'est ma grosse difficulté. Tu vois, j'ai plein d'articles qui sont en suspens, pas finis, dans mes drafts, dans mes trucs, qui pourraient être super intéressants pour plein de gens, qui seraient, que des personnes qui veulent se former au SEA adoreraient lire et tout. Là, tu vois, je suis en train de faire un article sur les comment utiliser les algorithmes avec les réseaux sociaux quand on est annonceur. Je sais pas, tu vois, parfois je me perds dans le truc et ça c'est chaud, quoi. Je galère, quoi. Et ça, je perds le fil de ce que je veux dire, à qui je veux parler. Est-ce que je veux parler? Parce que tu vois, toi, quand on avait parlé il y a un an, tu m'avais parlé de la chaîne, enfin, du tiroir d'offres, je me souviens très bien. Ouais. Là, tu m'avais dit, il faut avoir une offre pour des personnes qui sont plus larges et qui n'attendent pas forcément une expertise élevée. Et moi, je me reconnaissais pas trop dans tout ça. Donc du coup, tu vois, je me dis, mais oui, il faut un peu faire ça, il faut aller vers des choses grandes, enfin, qui parlent à beaucoup de gens. Mais en même temps, moi, ce qui me stimule, c'est de travailler plutôt sur des choses avec une expertise très
hyper
avancée.
Hyper précise.
Tu vois, et avec des gens qui sont, voilà, je, tu vois, je préfère travailler avec des grosses, enfin, certaines grosses, parce qu'en fait, je veux pas avoir des, tu vois, non, par exemple, moi, typiquement, la formation, c'est pas du tout un truc. J'ai fait des cours, ça m'a plu parce que c'est un challenge, mais en vrai, ça me stimule pas du tout suffisamment, quoi. Et pourtant, et plutôt, tu vois, d'être dans des boîtes où il faut trouver, enfin, qui ont avancé sur ces problématiques. Tu vois, j'ai fait un atelier là il y a quelques jours. J'étais avec des gens qui avaient un très très bon profil. Et là, tu t'amuses en fait, parce que tu sais que tu peux aller loin. Tu sais que tu vas pas leur sortir des banalités. Ils se sont pas agressés parce que tu dis une remarque. Tu vois, et ça, voilà. Et du coup, j'ai un peu perdu le fil de la question. C'était les galères.
C'était, tu parlais du contenu et tu te perdais un peu dans à qui t'adresser, pour quelles raisons, etc.
Voilà. Et en fait, c'est dur de se structurer, je trouve, là-dessus.
Ouais. Ouais. Ben, je me souviens effectivement de cette conversation où je crois qu'on était parti du contenu justement où tu disais, j'arrive plus à savoir exactement. Pour aller à la prochaine marche, c'est sur quelle typologie de personne je dois me focaliser. Est-ce que je reste dans ce que je fais actuellement ou est-ce que j'ouvre? Et c'est là où j'avais le modèle que je t'avais partagé, c'était l'escalier de valeur où il y avait une réflexion de les gens, c'est quel cheminement que tu as envie d'accompagner, de quel endroit tu les prends. Et effectivement, on jouait avec l'idée de est-ce que ton rôle, c'est d'aider des gens qui commencent leur acquisition et monter jusqu'au niveau de l'expertise que tu apportes où ils dépensent peut-être plus de 50 000 euros sur Google Ads à la fin. Et effectivement, je me souviens que au bout de notre conversation, tu disais que c'était plus la partie haute de cet escalier-là qui t'intéressait que la partie basse et que du coup, il fallait couper plus haut et rentrer plus dans vraiment le truc, l'expertise précise. Et je pense que du coup, c'est ce que tu apportes dans ton contenu aussi. On en parlait juste avant de ton positionnement, d'essayer de pas forcément dire... Google, c'est les meilleurs, mais voilà exactement tout ce que vous devez savoir sur comment ça fonctionne et donc comment se positionner face à ça. Effectivement, c'est des réflexions qui ne parlent pas à la personne qui se lance pour la première fois, mais quelqu'un qui travaille avec ce genre d'outils depuis des années et des années, quoi.
Ouais. Et c'est dur parce que tu te dis par exemple ce que va dire, par exemple, Danilo Duchesne, quand il pose des choses, tu te dis, ouais, c'est top, c'est bien. Mais il a l'envie d'aller redécrire, représenter les bases, tu vois.
Ouais.
Et en fait, moi, ça me gave, tu vois. Et du coup, je n'ai pas l'énergie pour le faire. Donc, je veux faire certains trucs, mais en même temps, donc tu vois, est-ce que je fais un article pour le débutant en SEA ou est-ce que je vais aller... Et tu vois, t'es un peu tiraillé entre les deux. Et voilà. Et c'est vrai que là, récemment, enfin, il y a 3-4 mois, j'ai fait un article sur le futur du SEA parce que beaucoup de personnes se posent la question de comment les stratégies automatisées vont challenger ces métiers, tu vois. Et c'est un article qui a été repris par la lettre de Petit Web, tu vois. J'ai eu un truc dans le journal du net. J'ai senti qu'il y avait une portée, quoi. C'est la première fois que j'ai un truc qui me... Tu sens que tu fais un petit buzz, quoi. Mais j'ai passé, ça a été un mois, enfin pas de temps complet, mais je bossais le soir sur cet article. Dans le quotidien, quand je fais ça, j'ai pas forcément l'adrénaline, tu vois. Là, mon article donc est en suspens, enfin, c'est pratiquement une thèse, là, j'étais à 18 pages, tu vois. Donc mais c'est parce que j'ai du mal à le prendre sans le rentrer dans le détail, tu vois. Et donc en fait, c'est compliqué c'est pas évident de d'avoir cette adrénaline quand t'es un peu perdu là-dessus. Et du coup, moi j'envisage, tu vois, typiquement un peu des podcasts là à partir de 2021 parce que c'est un exercice qui me paraît. En fait, il y a beaucoup de personnes avec qui je partage des choses que je sais, que j'ai vues, que j'ai entendues. Tu vois, dans le conseil, à un moment t'as vu aussi tellement de boîtes. Moi j'ai tellement d'anecdotes que ça a une valeur, mais malheureusement j'en fais pas. Alors là j'ai fait une série d'articles qui sont des business case sur des réussites de boîtes en acquisition, mais c'est long, tu vois, aussi à rédiger. Alors je me dis peut-être qu'un podcast dans lequel en fait je vais à la fois avoir des personnes qui sont sympas et bon, il y en a plein aujourd'hui, mais je pense qu'il y a encore matière à proposer quelque chose de sympa. Donc c'est de trouver du contenu dans lequel je suis à l'aise, quoi, la grosse galère.
Ok, merci pour ton partage. Il y a une part de moi qui a envie de rentrer dans le truc de creuser et tout, mais je vais essayer de retenir cette part-là pour pas que l'épisode dure encore une heure. La question d'après, c'est si tu étais face à Mathieu qui se lance, c'est son premier jour d'indépendant, donc le 5 septembre, dont tu parlais tout à l'heure, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais?
Alors, ça peut paraître un tout petit peu suffisant si je dis que je suis assez content de ce que j'ai pu faire et d'avoir appréhendé les choses avec pas mal de rigueur. Voilà, maintenant, et enfin, c'est un truc qu'on je l'entends dans tous les trucs, la réponse c'est de se faire confiance, c'est de se faire confiance plutôt. Mais à l'inverse, tu vois, je vais plutôt te dire l'inverse. Il y a des trucs où je me suis, enfin franchement, l'audace que j'ai pu avoir, j'ai envie plutôt de me dire mais bravo d'avoir fait ça, tu vois, le City Scoot, je suis trop content d'avoir fait ça parce que c'est pas conventionnel, tu vois. Il y a pas grand monde qui va harceler l'évêque et puis qui va choper la mission et voilà. Mais sur beaucoup de choses, c'est voilà, se faire confiance. Ah non, pardon. Si, il y a une chose, c'est quand même parfois d'être un peu plus moins direct dans ce que je peux dire à certains clients et d'être j'aime bien être transparent et du coup mettre un tout petit peu de rondeur. Tu vois, j'ai appris ça avec le temps, c'est de pas aller direct sur le déballer la critique.
Du coup, un communicant plus rond, entre guillemets.
Beaucoup plus rond.
Ok, trop cool. Et la dernière question qui est ma préférée, j'aime bien le dire à chaque épisode pour rappeler que j'adore cette question, parce que vraiment je l'adore, c'est si tu as une question à poser aux gens qui nous écoutent pour qu'ils réfléchissent sur leur vie d'indépendant ou leur activité sur un sujet précis, c'est quoi cette question que tu as envie de leur poser?
Donc des personnes qui sont déjà indépendants?
C'est les gens qui nous écoutent, ils sont indépendants et tu veux qu'ils réfléchissent à un truc sur leur vie ou leur activité. Quelle question tu leur poses?
En fait, je rejoindrais ce que tu disais sur l'adrénaline parce qu'en fait, c'est ce qui permet de te couper de ce qui te pollue en fait beaucoup comme le LinkedIn, tu vois, c'est de se concentrer sur le boost plutôt que d'essayer de reproduire ce que tu vois ailleurs. Et par ailleurs, c'est de se faire en fait de conserver tes convictions, tu vois, ce que je disais sur ne pas faire des missions de 6 mois si t'en as pas envie. En fait, pourquoi t'as été indépendant? Si jamais tu ne respectes pas les raisons qui t'ont poussé à être indépendant au fur et à mesure de ta vie d'indépendant, ça va pas prendre la bonne direction. Et comme on le disait, c'est quand même assez contraignant.
Donc si je reformule ça, c'est qu'est-ce qui te donne de l'adrénaline et quelles sont les convictions qui guident ton activité?
Ouais, pourquoi t'as fait ça et que du coup, est-ce que tu te les tiens vraiment tes convictions dans l'acceptation de tes missions, les clients avec qui tu travailles, voilà, c'est la seule façon de durer en fait.
Ok, top. Merci beaucoup pour ces questions, elles me parlent bien aussi. Ouais. Si les gens qui nous écoutent veulent venir discuter avec toi, lire tes articles qui font 18 pages ou se renseigner un peu sur ce que tu fais, où est-ce que je les envoie?
LinkedIn, Mathieu Ceccarelli. Ouais, c'est okay. Très bien.
Ok, très bien. Il y aura le petit lien sur la page podcast. T'as un dernier mot, Mathieu? Pour clore
cet épisode. Plusieurs trucs. Moi, j'adore partager, que ce soit ces sujets-là, tu vois, que ce soit la partie vie d'indépendant ou même reconversion de carrière, se poser ces questions-là. Donc, si des personnes veulent des partages d'expérience, veulent certaines choses, franchement, qu'elles n'hésitent pas à me contacter parce que je pense que moi, j'ai eu d'autres gens qui ont passé ce temps-là et c'est appréciable. Donc, si elles ont envie aussi, j'essaierai de le faire. Et voilà. Et en fait, parfois, il faut qu'on te dise la chose et ça fout un boost. Je continue d'accompagner les personnes à qui je leur dis ça, enfin qui se posent des questions. Et comme je suis passé par certains chemins, tu sens que tu les aides. Et tu vois, que ce soit la reconversion ou le passage à la vie de freelance, je suis vraiment passé par ça. Et n'hésitez pas si vous voulez des conseils, quoi.
Trop bien. Super. Ben merci beaucoup, Mathieu, pour cet épisode. C'était un vrai plaisir de te recevoir.
Bah ouais, cool, Thomas. Merci beaucoup. À bientôt.
Avec plaisir. Bye. J'ai adoré cette discussion avec Mathieu et j'espère qu'elle t'a apporté un beau regard sur son activité, sa manière de réfléchir et tous les bons conseils qu'il a intégrés dans les différentes étapes de sa progression. C'est un épisode très riche. Et ce que je retiens personnellement le plus et ce sur quoi je t'invite à mettre ta conscience et à valoriser dans ton activité, c'est son niveau de compréhension des enjeux de ses clients. Avec toute sa recherche et ses expériences passées, il sait exactement comment ça se passe en interne, qui prend les décisions, de quoi les acteurs importants avec qui il va échanger ont besoin ou ont peur. Il donnait l'exemple entre le CEO de la startup et le directeur marketing et leurs différents enjeux. Et tout ce savoir-là, ça lui permet d'être vraiment pertinent pour être véritablement au service du projet de ses clients. Et ça, je trouve ça remarquable. Et c'est souvent quelque chose qu'on omet, qu'on laisse de côté, en se focalisant seulement sur notre tâche ou seulement sur notre métier précis. Mais à mon sens, un bon freelance, un bon indépendant, doit avoir une bonne compréhension du mode de fonctionnement de leurs clients pour voir où est-ce que son métier et la mission s'insèrent dans l'image plus vaste et plus grande. Et je t'invite du coup à prendre du temps pour y réfléchir et poser ce que tu sais de ça pour tes clients quelque part cette semaine. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Young, Wild and Freelance. Bye bye.